Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Détendez-vous, écoutez des stories qui vont booster votre état d'esprit. Et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Dans cet épisode, nous retrouvons Jean-François Lagros pour la deuxième partie de son interview. Dans la première partie, nous avions suivi la piste de l'ivoire de l'Afrique à la Sibérie. Et ce jour, nous allons avec lui en pays tchouch, au détroit de Bering, attendre l'arrivée de la migration des morses. Je vous avais promis un épisode un peu particulier, car Jean-François m'a fourni un très beau texte sur son aventure. Ça a été pour lui une expérience d'une rare intensité. Et quand quelqu'un avec son vécu vous dit que c'était une expérience des plus intenses dans sa vie, vous écoutez plutôt deux fois qu'une. Son manuscrit nous plonge encore davantage dans l'aventure. Puisqu'il m'a gentiment donné son accord, je vais vous en lire plusieurs passages dans l'interview pour vous en faire profiter également. J'espère que ce format vous plaira. Allez, c'est parti, on reprend là où on vous avait laissé la fois passée.
Quand j'étais avec l'expédition des paléontologues russes sur les îles Yakov, en gros, cette expédition, les paléontologues ont profité de la logistique des chasseurs d'ivoire pour aller sur place et pour vivre dans leur datcha. Donc, on vivait l'expédition de paléontologues, il y avait quand même, on était une douzaine de personnes, vivaient, étaient hébergées dans la station des chasseurs d'ivoire. Mmh. Et donc, on a vécu avec eux en symbiose pendant un mois et demi, quoi. Et là, les jours où le temps était mauvais, moi, je pouvais discuter avec certains paléontologues et je me suis lié avec un paléontologue russe dont la mère, du temps des soviets, était une spécialiste des morses du détroit de Bering. Mm-hmm. Et là, quand j'en ai discuté, je disais, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gosse, je rêve que d'une chose, c'est d'aller voir les morses du détroit de Bering et j'adorerais pouvoir suivre leur migration et voir un petit peu. Et là, mon ami m'a dit, ma mère qui est maintenant à la retraite a encore des liens avec deux équipes qui travaillent sur les morses, une dans la Russie européenne et une au détroit de Bering et elle est toujours en contact. Je vais voir s'il y a moyen de te mettre en relation avec ces gens-là et si éventuellement tu pourrais les rejoindre. Mmh. L'équipe qui travaillait en Russie européenne n'a pas souhaité m'accueillir parce qu'ils avaient peu de place et beaucoup de travaux. Par contre, les Russes du détroit de Bering m'ont dit « Pourquoi pas, mais c'est compliqué, on travaille en zone frontière, ce qui demande des permis très spéciaux, des autorisations très spéciales. » Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette recherche administrative qui m'a pris quasiment 2 ans pour obtenir les autorisations pour aller dans cette zone qui est ce qu'on appelle les zones frontières, c'est-à-dire ce qui demande le plus d'autorisation en Russie, parce que c'est des zones stratégiques, à la fois militaires, à la fois géopolitiques, avec de grands enjeux. On n'est pas loin du détroit de Bering, on n'est pas loin de l'Alaska, de l'Amérique, donc c'est des zones qui sont très surveillées par les Russes. Mais j'ai quand même réussi à avoir une autorisation pour, au bout de 2 ans, suivre un jeune scientifique russe qui allait étudier depuis plusieurs années la migration des morses qui descendent de l'océan Arctique et vont se mettre dans des eaux plus chaudes l'hiver et qui s'arrêtent dans une baie du cap Sertsekamen qui est en Chukotka, c'est-à-dire la province du détroit de Bering, et qui viennent chaque année faire une pause depuis quelques années dans le fond d'une baie où ils s'entassent par plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000 morses dans cette baie, dans lequel il y a une espèce de repère de chasseurs de baleines tchouch, puisque ce sont là les tchouch qui chassent le long de la côte, qui chassent les baleines grises, qui chassent les morses, puisque ils ont encore une chasse traditionnelle, et ils ont droit à un certain quota de chasse de morses. Et donc, j'ai eu droit d'aller avec ce Russe passer quasiment un mois dans cette datcha, tous les deux, tout seuls, en autonomie complète, seulement avec un téléphone satellite qu'on a utilisé 3 fois dans le mois, à surveiller l'arrivée des morses dans le fond de cette baie, puisque les morses entrent petit à petit dans cette baie qui forme une espèce d'entonnoir avec des grandes falaises sur le bord. Les morses petit à petit pénètrent de façon très peureuse. Il leur faut 3 semaines pour arriver et investir la plage sur laquelle se trouve la datcha dans laquelle on logeait.
Comme des vagues, hein. Ils viennent un petit peu voir.
Un petit peu comme des vagues. Ils viennent sur les rochers. Ils repartent. Ils viennent. Ils repartent. Et tout ça est rythmé par le temps, est rythmé par la densité de morses qui ne trouvent plus de place assez de place sur les rochers dans lesquels ils viennent s'affaler et qui finissent par investir d'un coup cette gigantesque plage, enfin gigantesque non parce qu'elle fait peut-être même pas 1 kilomètre de long, hein, beaucoup moins, peut-être même 500 mètres, et viennent s'entasser là, je sais pas, peut-être jusqu'à 80 000 morses qui viennent, tandis que d'autres restent encore dans les eaux en face parce qu'ils trouvent pas de place. Donc on peut retrouver jusqu'à 100, 120 000 morses dans cette baie avant le saut final qui les amènera à traverser le détroit de Bering. Ils viennent se reposer là, se gaver, faire des provisions de coquillages. Ils vont au large où il y a une colonie de coquillages qui leur convient bien. Donc ils viennent se reposer, repartir 3 jours en mer pour plonger et aller chercher ce coquillage sur le fond, se reposer encore et reprendre des forces avant de passer le détroit de Bering quelques semaines plus tard.
C'est un sacré périple aussi, hein, pour aller là-bas. Tu dis, c'est pas un petit vol sympa, c'est déjà toute une expédition pour arriver là-bas.
De France, ça m'a pris plus de 10 jours, puisque une fois que j'étais à Nadir, la capitale de la Chukotka, il a fallu partir avec un petit avion dans une ville secondaire. Et de là, il y a un hélico, ces gros hélicos russes, qui fait l'omnibus, mais une fois tous les 15 jours, qui alimente les quelques villages tchouch qui sont parsemés le long de la côte. Et qui fait un tour, mais encore faut-il que les conditions météo le permettent, qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'il n'y ait pas trop de pluie, et donc j'ai mis 10 jours pour arriver et être largué en hélico avec mon camarade russe qui ne parlait pas un mot d'anglais et moi quelques mots de russe, pour être largué à Enormino, un village tchouch de la côte, où de là il a fallu encore attendre les bonnes conditions pour rejoindre en barque par la mer le fond de notre baie où se trouvait la datcha, où on a été débarqué avec un sac de pommes de terre de 50 kilos pour tenir un mois et à peine quelques provisions, notamment des boîtes de conserve de viande de renne et du café et du lait concentré, et voilà, on a tenu comme ça ensuite avec un filet de pêche pendant un mois tous les deux, perdus, complètement perdus dans un endroit extraordinaire de la côte tchouch.
C'est parti pour une première lecture du texte de Jean-François. J'avais un peu hésité avant de me lancer dans l'exercice, j'avoue, parce que bon, je suis pas lectrice professionnelle moi. J'aurais adoré avoir la voix de Lambert Wilson pour vous lire cet extrait, je trouve qu'il aurait eu la voix parfaite pour ça. Mais j'ai pas son numéro, et si moi j'avais la voix de Lambert Wilson, j'aurais un sacré problème hormonal. Alors tant pis, on va faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire la voix de Bibi. Et puis, je vais vous mettre une petite musique de fond, comme ça, au pire, vous aurez pas tout perdu. J'ai toujours pensé que tout opposé, avion et voyage. Si l'on entend par voyage une immersion dans un monde autre que celui qui nous est familier. Si vous parcourez 8000 km en avion, pour vous rendre au bout du monde, c'est-à-dire à la limite de ce qui vous est connu, à la fois géographiquement et sociologiquement. Que vous parcourez ces 8000 km en quelques heures. Alors ce n'est pas vous qui arrivez, mais une partie de vous-même seulement, votre éclaireur, un avatar en quelque sorte. Il faudra du temps à votre corps pour se mettre en phase physiologique avec les contraintes du lieu dans lequel vous arrivez. Et plus de temps encore pour que votre esprit prenne pleinement conscience de la vie telle qu'elle se déroule dans l'endroit de la Terre où vous êtes projeté. L'harmonie n'est possible qu'à ce prix, celui du temps, passé pour que votre corps et votre esprit se juxtaposent parfaitement à votre enveloppe presque virtuelle qui a pris les devants.
Le quotidien était assez simple finalement, là. L'observation, la pêche, la cueillette.
On était dans cette datcha qui avait une pièce qui faisait 20 mètres carrés, avec 2 planches de bois pour dormir, un poêle à charbon. Et il se trouve que par un miracle incroyable, une dizaine d'années auparavant, une barge qui transportait du charbon, qui provenait d'une mine, s'était échouée sur cette plage. Et que du coup, il y avait sur la plage un énorme tas de charbon grâce auquel on pouvait se chauffer dans la datcha. Donc tous les jours, on était de corvée l'un ou l'autre pour aller remplir le seau de charbon pour la nuit. Et donc, on remplissait tard le soir le poêle et on tenait jusqu'à 3-4 heures du matin. Et là, la température commençait à baisser tellement qu'au petit matin, on était réveillé par le froid dans notre datcha.
D'accord.
Et ensuite, la journée commençait par une longue marche pour aller jusqu'au cap Sertsekamen, aller scruter au loin, sur l'horizon, l'arrivée des morses qui viennent par famille. En fait, on voit leur jet, puisque ce sont des mammifères, donc ils expulsent un peu comme les baleines l'eau, et on voit sur l'horizon les familles de morses qui arrivent et qui entrent petit à petit dans la baie. On les comptait et on voyait un petit peu leur arrivée progressive tous les jours.
Oui, c'est des bêtes tout à fait extraordinaires. Ma petite fille a une question pour toi par rapport aux morses.
Ah oui?
Oui, attends. Je vais te la mettre.
Les morses, ils pèsent combien?
Ah, ben c'est une bonne question. Les morses sont des animaux gigantesques. Un morse, ça peut peser jusqu'à une tonne, voire même un peu plus. Donc vraiment, ce sont des animaux énormes, une énorme masse avec beaucoup de graisse, avec une peau très épaisse et qui sont évidemment très malhabiles dès qu'ils arrivent sur la terre ferme, mais qui sont extrêmement agiles quand ils sont dans l'océan Arctique. Il y a un énorme contraste et on voit que ce sont des animaux qui sont faits pour être, a priori, sous l'eau. Voilà. Alors, le poids est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un gros problème avec les morses à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont en danger pour une raison bien précise, c'est qu'auparavant, dans leur migration, quand ils descendent des glaces du pôle Nord pour aller passer le détroit de Bering, en général, les mâles venaient se reposer à terre, c'est-à-dire dans des baies, tandis que les femelles et les jeunes se reposaient sur des plaques de glace résiduelles et n'avaient pas besoin de venir à terre avec les mâles. Et il se trouve que maintenant qu'il y a de moins en moins de glace résiduelle, les femelles et les jeunes sont obligés de venir à terre avec les mâles et que s'ensuit un énorme problème qui est que, comme il y a extrêmement peu de place pour ces énormes colonies, souvent, il y a d'énormes bagarres pour la place et les jeunes se font écraser par les mâles au cours de ces bagarres, à tel point que ça met en danger la reproduction à long terme des colonies et que c'est un énorme problème pour l'espèce.
Oui, un réchauffement climatique, encore une fois.
Oui.
Sinon, tu as eu aussi, juste avant d'arriver dans cette petite datcha du bout du monde, tu as passé du temps avec les tchouches. Tu as beaucoup aimé le temps que tu as passé avec eux, avec les chasseurs. Tu peux en parler un peu?
Oui, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il a fallu attendre des conditions de météo favorables pour qu'on puisse, du dernier village qui était situé à 14 kilomètres de notre baie, qui est une baie protégée, donc les tchouches n'ont pas le droit d'aller chasser les morses dans les eaux de la baie, mais quand les morses arrivent auparavant, passent devant leur côte, ils ont droit de chasser un certain quota de morses dans l'année, puisque c'est uniquement avec la viande de morse qu'ils peuvent passer ensuite l'hiver et attendre le printemps suivant. Donc ils font des réserves de viande et ils la font justement lors de la migration des morses qui passent au large de leur village. Donc j'ai passé du temps au village avec les chasseurs tous les matins et j'ai trouvé que c'était une vie qui était tellement rythmée par la saison, par les morses, par la nature. Ce sont les morses qui décident en gros de l'avenir du village, c'est-à-dire que s'il y a suffisamment de morses qui passent, on va pouvoir chasser, on va pouvoir faire des réserves, passer dans de plus ou moins bonnes conditions l'hiver. Et c'est une vraie chasse traditionnelle qui a un sens. Et jamais on va tuer de femelles, jamais on va tuer de jeunes, on va essayer de tuer que ou de vieilles femelles ou des mâles pour essayer de pas mettre en danger la survie de l'espèce. Et donc j'ai trouvé que la vie était réellement menée par cette chasse du moment, en tout cas au moment où j'y étais, au mois de septembre, quand il y a la migration, tous les hommes se retrouvent le matin dans la maison des chasseurs pour arriver à 7h du matin, les hommes tous ensemble qui se rejoignent, même s'ils vont pas chasser, même si le temps est mauvais, ils se rejoignent tous là, ils discutent, ils parlent, et toutes les 10 minutes, ils sortent avec leurs jumelles et ils regardent l'horizon pour voir quel est l'état du vent, est-ce qu'on voit des morses qui passent, est-ce qu'il y a des groupes intéressants, et à ce moment-là, ils sont toujours prêts en période de chasse à mettre les esquifs à la mer et à partir avec les
harpons.
Les harpons, merci.
Je t'en prie.
pour tout le monde met les esquifs à la mer et tout le monde part à la chasse avec les harpons pour pour essayer d'aller chasser. Mm-hmm. J'ai découvert aussi que les Tchouches avaient une peur bleue de la mer.
Ah oui.
Parce que qui dit mer des Tchouches dit tempête, et qui dit tempête dit drame, accident. Et donc, on voit bien que la mer constitue pour eux un danger perpétuel, constant. La chasse ne se fait que quand la mer est d'huile et quand on peut sortir dans des conditions en étant sûr de pouvoir revenir dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment ce qui rythme leur chasse. Hein. Si on voit des morses passer au loin, mais que la mer n'est pas d'huile, on ne sort pas parce qu'on sait qu'on ne reviendra peut-être pas. Mm-hmm. Donc, les chasseurs Tchouches, je m'étais lié avec un jeune chasseur qui était le chef des chasseurs, qui s'appelait Stas, et qui ne voulait pas m'amener à la chasse au départ parce que il avait peur que je raconte ensuite que leur chasse était brutale, sanguinolente, et que je rapporte une mauvaise image de la chasse. Et il m'a fallu longtemps pour lui expliquer que je comprenais bien que leur chasse était une vraie chasse, une chasse de subsistance, et que personne ne pouvait critiquer leur besoin de chasser pour la survie du village, pour leurs besoins réels, et que ça correspondait à un cycle de vie devant lequel on n'avait qu'à être admiratif. Et petit à petit, il a compris que ma démarche était surtout pas critique, mais qu'elle était plus dans l'admiration et dans le soutien.
Stas me raconte l'histoire d'un chasseur de Nashkan, quelques 60 kilomètres plus loin, qui a été tué par une baleine qu'il venait de harponner. En plongeant pour lui échapper, le cétacé lui asséna sur la tête un coup de queue d'une incroyable violence, lui brisant instantanément la colonne vertébrale. Il mourut sur le coup. Je comprends qu'ici, on n'éprouve pas de compassion condescendante pour la vie animale, les morses ou les phoques, parce que chacun, homme ou animal, cherche seulement à survivre. Et la survie est un combat qui peut aussi se perdre. Il n'y a aucune violence dans cette chasse, pas de volonté d'arracher la vie, seulement celle de vivre et de faire vivre les siens. La mort de ce morse est un don. Les chasseurs connaissent sa valeur. Il y a finalement là un respect qui n'a besoin ni de mots, ni de manifestations.
J'ai été très, très touché par tout ce que j'ai vu et leur façon de vivre. Les hommes à la chasse, les femmes allant chercher les baies en faisant des provisions, toutes les femmes partant avec des seaux le matin dans la toundra pour ramasser les golobiques, carouches, plein de baies qu'elles savent reconnaître et dont le cycle de vie est très court. Elles doivent aller vite faire des provisions de baies et elles partent en groupe et elles s'investissent la toundra. On les voit qui partent en vagues dans la toundra à des kilomètres et revenir avec leur seaux à la fois de baies de toutes les couleurs, jaune, rouge, orange, superbe, et en même temps des champignons, et en même temps, enfin ça, c'est magnifique.
Ouais, c'est ce que tu disais, c'est marrant, j'ai retrouvé là ce vers quoi on tend, qu'on a perdu, vers quoi on tend à nouveau, c'est, allez, on tend à vouloir se reconnecter à la nature, on se rend compte maintenant que nos vies complètement artificielles ne sont pas tenables, et tu dis qu'eux, ils n'ont jamais perdu en fait ce lien.
Oui, bah eux, c'est une question, j'ai vu là une vraie survie. Hein, ils peuvent, quand l'hélicoptère ne peut pas venir en hiver, ils peuvent rester des mois sans apport. Hein, l'été, parfois, il y a un conteneur. Donc dans le village, il y a des conteneurs qui s'échouent sur la plage, qui leur sont envoyés par des cargos qui passent au large. Par exemple, il y a une seule épicerie dans le village. Ils sont alimentés par un ou deux conteneurs pendant l'été. Et arrivent parfois des oranges ou des oignons, et ça c'est vraiment ce qui a le plus de valeur pour eux. Manger une orange ou avoir des oignons, c'est avoir des vitamines, c'est avoir des choses fraîches, et ça ne leur arrive jamais parce que eux, en dehors des baies, qui sont vraiment leur apport de vitamines, ils mangent du poisson et ils mangent beaucoup de protéines, mais assez peu de choses fraîches.
Tiens, à propos, j'ai une question de mon autre petite fille, Valentine, par rapport à ce que tu as mangé là-bas.
Qu'est-ce que tu as mangé de plus bizarre là-bas ?
Ah, alors ce que j'ai mangé de plus bizarre, et ils ont absolument tenu à ce que je le fasse, c'est que quand on est revenu de la chasse aux morses, c'est aussi très codifié, hein. On ramène les morses sur la plage et ensuite on les découpe immédiatement. Et ensuite, simplement, quand les morses sont découpés, les femmes viennent récupérer tous les morceaux. Et ces morceaux sont en général découpés et forment des espèces de ballots. C'est-à-dire qu'on laisse la peau de morse à l'extérieur, on met la viande et on referme ces ballots qu'on referme comme des espèces de sacs, en fait. Et ces sacs sont ensuite, traditionnellement, ils sont enterrés pour passer l'hiver, ils congèlent et on les retire uniquement en cas de besoin pour tout au long de l'hiver et on fait bouillir cette viande qui sert à nourrir tout le clan pendant tout l'hiver.
Et donc pour la conservation, donc ils retirent tout pour retirer les abats et toutes des choses qui pourraient gâter la viande avant la congélation, c'est ça?
Voilà, mais ceci dit, pratiquement tout est utilisé.
Oui, c'est ça. Mais les abats tout de suite, quoi, on va dire.
Même les abats sont utilisés, mais il y a quelque chose que les tchouches font souvent, c'est qu'ils récupèrent aussi le cerveau de morse et ils mangent le cerveau de morse, souvent juste après la chasse. C'est une espèce de rituel, à la fois parce qu'ils trouvent ça très bon, parce que ça donne de la force, parce que ça clôt une journée de chasse, parce que ça a des vertus et tout. Et donc, j'ai mangé de la cervelle de morse fraîche, nature.
Ouais, crue donc.
Donc, crue, ouais. Bien sûr.
Oui,
crue,
donc. Bien sûr, bien sûr. C'est évident que ça pour tout le monde.
Voilà ce que j'ai pu manger de qui peut paraître le plus spectaculaire, hein, mais.
Ouais.
Mais pour les tchouches, c'est normal.
Ouais, ouais.
C'est la vie.
Tout à fait. T'as aussi mangé des petits morceaux de baleine, non? C'est de la peau de baleine, non? C'est quelque chose qu'ils mangent volontiers.
Ah, un grand luxe, c'est de manger la langue de la baleine, qui est fumée, qu'on coupe en tranches, un petit peu comme de la viande des grisons chez nous, ou quoi, ou comme de la copa, ou tu vois, donc ils font fumer la langue de la baleine, une langue, c'est énorme, elle est partagée. Quand, dans le village où j'étais, ils ont le droit de chasser, je crois, 5 baleines grises par an. Quand on chasse une baleine, elle est ramenée sur le rivage, et on découpe la langue notamment, et elle est partagée dans les différentes familles, et ensuite elle est fumée, et on la mange dans les grands repas. La langue de baleine, c'est ce qu'elle est meilleure, et c'est vrai que c'est très très bon. J'ai beaucoup apprécié.
Voilà, pour les spécialités, pour Valentine.
Oui, et à part ça, quand on était dans la datcha pendant le mois plutôt, dans la datcha même, on a été un mois sur cette plage, on avait un filet de pêche et on avait un petit ruisseau qui passait à 50 mètres de la datcha, avec qui rentrait dans les terres et qui arrivait dans une lagune. C'était le temps de la migration des saumons quand on y était, et on avait quelques saumons qui remontaient ce petit ruisseau chaque jour, et on mettait en travers un filet, et on avait chaque jour, ça nous a nourris pendant un mois. On attrapait des saumons qui faisaient 2-3 kilos chaque jour, magnifiques, qu'on faisait soit frire, soit en soupe, et donc ça nous a nourris comme ça avec nos pommes de terre pendant un bon mois.
Et voilà. Tu as fait l'exercice de simplicité volontaire, c'est très à la mode, jusqu'au bout des ongles, puisque ça m'a beaucoup fait rire quand tu m'as dit j'avais pris 4 bouquins pour ce mois-là, mais j'ai oublié mon sac de couchage. Quand on sait que le lit est une planche, tu t'es vraiment poussé le...
ouais,
la simplicité un peu loin.
Ouais, non, je m'y étais fait. J'avais mis mes autres habits sur la planche pour que ça soit un peu moins dur. Et je dormais avec ma veste sur moi. Ben voilà. Non, on était vraiment... J'ai jamais passé un mois pareil à un tel degré de simplicité,
oui.
D'isolement. Et puis se retrouver avec une personne seule que tu ne connais pas.
Qui ne parle pas ta langue.
Qui ne parle pas ta langue. C'est une expérience magnifique.
Exception faite des animaux, nous n'avons eu qu'une visite. C'était un jour de grand vent. Je lisais. Maxime rédigeait son rapport quotidien. On entendit frapper à la porte de l'Izbushka. Un inconnu apparut qui venait de parcourir dans la toundra près de 150 km à pied depuis l'Orino, avec son chien, pour seule compagnie. Parti 9 jours auparavant, il ne s'était arrêté qu'une journée pour s'abriter de la pluie sous les rochers. Il avait longé la côte pour ne pas s'égarer. Âgé d'une 50aine d'années, Sergueï promenait sa vie dans un regard sage et doux, aussi acéré qu'intelligent. Dans les raies de lumière qui perçaient à travers l'unique fenêtre de notre cabane, son visage anguleux, tanné et dissymétrique était à lui seul une histoire. On pouvait y lire la vie d'un chasseur tchouch, ses combats en mer, ses épopées dans le blizzard, ses blessures, ses gerçures, son courage et ses peurs. Affamé, il a dévoré tout ce que nous pouvions lui offrir. De la viande de renne en conserve au saumon en bouillon. Il attendait de nous qu'on lui donne tout ce que nous avions. C'était normal, cela ne le gênait pas, c'était naturel. C'est comme cela que les hommes doivent être. Il ne parlait pas beaucoup, mais j'appris beaucoup de sa seule présence. Sergueï passera 2 jours avec nous.
Le temps pour lui de reprendre des forces avant de repartir vers Nashkan, encore distante de 80 km. Je n'ai pas lu dans ses yeux de fatigue, d'angoisse ou de frustration. Il ne s'est pas plaint d'un retard ou du chemin qui lui restait à parcourir. Il m'a semblé heureux. Voilà, exercice de lecture, check, c'est fait. C'était le dernier extrait que j'avais sélectionné pour vous aujourd'hui. J'espère, 1, n'avoir endormi personne avec ce dernier choix de musique, surtout si vous êtes au volant, hein, je m'en voudrais quand même. Et 2, avoir rendu un tout petit peu justice au très beau texte de Jean-François, que l'on retrouve pour la suite de l'interview. Tu peux nous décrire le paysage qu'il y avait là autour de cette petite cabane en bois ?
Oui, oui. Cette cabane en bois, elle était à peine en retrait de la fameuse plage des 200 mètres où les morses viennent s'affaler. Et de l'autre côté, il y avait une lagune, large de peut-être 200-300 mètres. Et tous les soirs au crépuscule, on avait une famille d'ours bruns qui venaient de l'autre côté de la lagune avec trois petits bouards. Donc on les voyait très bien à l'œil nu, mais encore mieux aux jumelles. Et on les voyait batifoler de l'autre côté de la lagune. On était sur cette étroite bande entre la lagune et la plage, et tout au fond de cette baie, avec de chaque côté, partant vers l'océan, vers le détroit de Bering, deux grandes falaises incroyablement belles, avec la toundra au-dessus et des lichens de toutes les couleurs, dans les bruns, dans les ocres, dans les violets. Et c'est des couleurs très naturelles, avec rien d'autre. Et je me souviendrai, la première fois quand on a été débarqué, les Tchouts nous ont débarqué sur cette plage avec leur esquif, avec nos trois sacs. Ils sont immédiatement repartis parce qu'ils ont peur de la mer et qu'ils voulaient rentrer tant que le temps était bon. On a rentré nos sacs dans la datcha. Moi, je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut vivre là un mois ? Je reconnais, hein, pourtant j'ai l'habitude de voyager et tout, mais j'ai quand même eu un pincement au cœur en me disant « mais tu vas vivre là un mois, comment ça va être possible ?» Et je dois dire qu'au bout du mois, je serais resté 3 mois de plus,
oui.
Sans problème.
Oui, oui.
Voilà, et c'était très triste de partir pour moi, c'était très dur.
Ouais.
Et donc le jour où on est arrivé, on a rangé tous nos sacs et on est parti sur la falaise pour surplomber, pour voir la baie d'en haut. Et on a assisté à un spectacle qui était incroyable, c'est que la mer était d'huile, et ce jour-là, on voyait des vagues d'oiseaux noirs qui volaient au-dessus de la mer, et on voyait des espèces de grosses masses qui se déplaçaient dans la baie en faisant des espèces de virages lents, calmes, paisibles, et tous les oiseaux qui suivaient. Et en fait, c'était les baleines grises qui se baladaient avec la gueule ouverte pour absorber le krill qui était en surface, et qui mangeaient et qui se nourrissaient, les oiseaux derrière récupéraient ce qu'ils pouvaient récupérer. Mais c'était un spectacle, mais de nature tellement vierge, tellement isolée, tellement paisible. Mais je n'en croyais pas mes yeux, c'était incroyable.
Tu m'avais même dit que c'était une des rares fois où tu avais l'impression que l'humain n'avait plus sa place là-bas.
Oui, oui, j'étais vraiment...
Et pourtant, tu en as vu des endroits déserts et éloignés, écartés.
Oui, oui, mais c'était la première fois, j'avais l'impression de déranger, de ne pas avoir le droit d'être là presque.
Mm-hmm.
Voilà, c'était incroyable.
Ouais,
et il y avait des orques, ou même un peu plus tard, une famille d'orques est arrivée aussi dans la baie, parce qu'ils viennent chasser aussi les jeunes morses, donc on les voyait du dessus, on les voyait de la falaise, on les voyait en bas par transparence, mais un spectacle, mais incroyable, voilà. Et donc j'ai passé un mois là, à voir arriver les morses, jusqu'à ce jour où début octobre, ça devait être le 3 ou 4 octobre, ils ont d'un seul coup investi la plage, et là moi je devais partir parce que après il y avait plus d'hélicoptères pour me récupérer et ça devenait très compliqué. Maxime, lui, est resté un mois de plus. J'aurais adoré rester là, mais je pouvais pas malheureusement. Je suis parti le premier jour où il a neigé et où les morses montaient sur la plage. C'était un spectacle incroyable, des milliers de morses qui montaient avec la neige qui tombait au petit matin. Et nous, les regardant par la fenêtre de la datcha, c'était un spectacle incroyable. Et un mois plus tard, Maxime m'envoyait un message quand il était de retour en me disant « les morses m'ont à un moment encerclé complètement dans la datcha, je pouvais même plus ouvrir la porte.
Oh. »
Et je suis resté 3 jours sans pouvoir ouvrir la porte, coincé par les morses qui avaient entouré la datcha.
Mais c'est vrai qu'un truc de 1000 kilos qui décide de se pelotonner contre la porte d'entrée, tu...
Ah oui, mais il y en avait, ils entouraient complètement, Il était coincé complètement. Et il m'avait raconté, lui aussi était traumatisé, parce que 2 ans auparavant, il a été attaqué dans la datcha par un ours polaire. Et il avait vu presque sa dernière heure arriver. Hein. Il est dans la datcha à la fin de la migration, justement, quand la neige commence à tomber, que les ours polaires qui ont été coincés pendant l'été restent là et reviennent. Et il a été pas attaqué, mais l'ours a senti qu'il y avait quelqu'un dans la datcha et il a essayé de faire tomber la porte. Et Maxime a été obligé de se barricader, à tout mettre tout ce qu'il pouvait pour empêcher l'ours de rentrer. Il a eu la peur de sa vie. Là, il a vraiment cru sa dernière heure arriver. Donc, c'est vraiment un endroit où la nature est reine. Elle est chez elle et c'est elle qui dicte sa loi. Voilà.
Wow, c'est vraiment magnifique. Hein.
Oui, vraiment, j'ai vécu un mois incroyable, incroyable.
C'est beau parce que parfois, quand on a des rêves de gosse, qu'on les réalise, on est un peu déçu. Mais toi, c'est le contraire.
Ah oui, c'était plus beau que dans mes plus beaux rêves d'enfant. Non seulement j'ai vu les morts, j'ai pu les approcher. Comme ils paniquent énormément et qu'il ne faut pas déclencher de mouvement de panique parce que c'est ce qui provoque vraiment des problèmes avec les morts, c'est que quand ils paniquent,
ils s'écrasent.
C'est comme les moutons de Panurge. Mmh. Ils s'écrasent tous, les jeunes sont écrasés et tout. Donc, il fallait rester à une distance raisonnable, d'autant que le morse, une fois à terre, ne voit quasiment rien. Ils ont ces gros yeux qui cherchent, mais qui voient presque rien, et des yeux exorbités et qui ne leur servent pas beaucoup. Mais par contre, ils sentent très facilement. Et donc, il faut tenir une distance minimum pour ne pas qu'ils nous sentent trop et ne pas déclencher de mouvement de panique. Mais je les ai quand même beaucoup approchés, je les ai vus dans leur... dans leur énormité, dans leur immensité, j'ai pu les sentir, entendre les bruits, les voir vivre pendant des jours et des jours, et c'était quelque chose d'absolument incroyable.
Et les capturer au moins sur pellicule.
Voilà, les capturer au moins sur pellicule.
Tu as ramené de superbes photos de là-bas. Hein.
Oui, et puis surtout, j'ai eu une chance incroyable, c'est que tout le monde me disait « Oui, mais tu vas arriver au moment où ils ne sont pas encore sur la plage, tu ne les auras presque pas, et tu ne les auras que sur les falaises. » Et en fait... ça a été un atout incroyable, c'est que quand je les ai eus, je les ai surtout photographiés dans les falaises, et à ce moment-là, j'étais au-dessus d'eux. Donc j'ai eu des teintes de couleurs, j'ai eu des variations, et je me suis rendu compte qu'ils étaient chacun différents les uns des autres. Il y avait les individus, je les voyais revenir, je les connaissais presque, et j'avais des teintes, des camaïeux de couleurs absolument extraordinaires. Ça dessinait des espèces de tapisseries incroyables, alors que quand on est au ras du sol avec eux sur la plage, ils forment une masse compacte avec très peu de nuances de couleurs. On ne se rend pas compte de la variété et du brio des couleurs de leur cuir épais. Et j'ai pu faire des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce que justement, j'ai eu accès à une palette de couleurs beaucoup plus variées que ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour les morses. Quoi.
Ouais.
Donc c'était en fait un atout magnifique et j'en ai bien profité.
Ah, superbe. Et c'est vrai que tu disais que tu as eu un peu de mal pour le retour. Justement, l'hélicoptère, comme tu disais, était fort tributaire des conditions climatiques. Là, elles n'avaient pas été excellentes.
Oui, je me suis retrouvé à nouveau dans le village, après être retourné à pied, cette fois-ci, avec tout mon matériel jusqu'au village. Il fallait passer un col qui commençait à être enneigé pour retourner. Maxime m'a accompagné jusqu'au village parce qu'il en a profité pour aller faire quelques provisions. Et là, je suis resté encore très longtemps parce que l'hélicoptère n'arrivait pas à revenir, parce que les conditions ont commencé à être difficiles. Tout le monde rigolait au village en disant « Bah, c'est bien, tu vas passer l'hiver avec nous, tu vas voir ce que c'est qu'un hiver tchouch et tu repartiras chez toi au mois de mai ». Et autant les premiers jours, ça m'a vraiment inquiété. Je me disais « C'est pas possible, je vais pas rester là l'hiver ». Et autant, plus les jours passaient, plus je retrouvais tout le monde dans le village et plus je me disais « Mais pourquoi pas ? Pourquoi je passerais pas l'hiver avec eux ?» Et c'était devenu à vrai dire, un jour l'hélico est arrivé presque par surprise, on l'entend 10 minutes avant qu'il arrive, le bruit, on entend les pales, tout le monde sort du village, c'est l'hélico. Et ben quand j'ai entendu l'hélico, j'en étais presque triste de me dire bon ben ça y est, je pars et je vais pas passer l'hiver là, quel dommage quoi.
Ouais, ça c'est une belle aventure. Et donc la boucle est bouclée sur l'ivoire parce qu'il y a de l'ivoire de morse aussi, ils collectent l'ivoire des morses.
Alors, exactement, c'est encore une population qui collecte l'ivoire. Il y a quelque chose qui est extrêmement bien fait dans ces populations et leur gestion par la Russie, c'est que les chasseurs dans chaque famille sont payés parce que ils sont payés par l'État russe, l'État de Tchoukotka, parce que on les considère comme chefs de famille et ils chassent pour nourrir leur famille, donc c'est un métier. Donc, ils reçoivent des subventions pour avoir assuré leur rôle de chasseur pour leur famille. Mais la subvention qu'ils reçoivent dépend du nombre de morses qu'ils ont chassées dans l'année, en fonction des quotas et en fonction de ce qu'ils ont réussi à chasser. Et ils doivent prouver ça par les défenses de morses qu'ils récupèrent et qui sont taguées avec le nom du chasseur, la date. Et ainsi, quand ils rendent ça à l'administration russe, ils reçoivent en contrepartie leur salaire, en quelque sorte.
Mm-hmm. Ouais.
Ce qui leur permet de continuer à mener leur vie de chasseur et d'être payés pour ça. Donc, une espèce d'adaptation entre la vie traditionnelle et le monde moderne qui leur permet de continuer à vivre de leur vie de chasseur.
Et on espère que ça survivra encore quelques temps, mais ça ne séduit plus tous les jeunes, tu disais. Hein.
Des jeunes partent effectivement en ville, mais d'autres restent. L'alcool est un problème, mais il y a quand même encore des chasseurs. Et donc, pour finir avec les défenses ivoires, il y a aussi des sculpteurs traditionnels.
Oui.
Donc, l'État russe récupère les défenses et ensuite elles sont rachetées de manière tout à fait officielle par des sculpteurs qui vivent à Nadir, qui est la capitale de Chukotka. Pour le peu de touristes qui viennent là, ils sculptent. Il y a un savoir-faire encore d'artisanat, de sculpture des défenses de morse et ça leur permet de vivre aussi. Donc il y a aussi toute une chaîne de vie avec cet ivoire de morse qui, bien sûr, ne se fait pas du tout dans les mêmes proportions et qui est surtout un ivoire utilisé localement et qui n'est pas exporté, mais qui sert à faire vivre quand même les tchouches localement.
Ouais.
Donc, c'est une autre histoire de l'ivoire,
comme
il y a l'histoire de, en Afrique, il y a aussi l'hippopotame, l'ivoire d'hippopotame. Voilà, il y a plusieurs ivoires, il y a plusieurs histoires de l'ivoire. L'ivoire est un univers et c'est pour ça que c'est une matière qui est extraordinaire et qui a à chaque fois une place dans la culture locale des populations qui vivent là. C'est parce que c'est toujours une matière noble qui s'est toujours inscrite d'une façon ou d'une autre dans la culture des peuples.
Oui,
voilà.
En tout cas, ça fait voyager.
Bah écoute, moi je garde vraiment de ce voyage en Tchoukotka, tout près du détroit de Bering, un souvenir mais incroyable, et j'ai eu une chance formidable d'y aller. J'ai été sans doute le premier à aller dans cette baie,
premier européen,
passer du temps avec,
premier occidental, tu disais,
à passer du temps avec ce scientifique russe qui m'a donné l'incroyable chance de pouvoir assister à ce spectacle et à vivre cette vie. Incroyable.
Ah ouais, c'est formidable. Et nous, on a la chance d'avoir pu la vivre à travers ton récit. Et c'est une chance énorme également.
Si je peux vous en donner le goût et quelques images, ça me fait plaisir de pouvoir transmettre ça, parce que pour moi, ça a été un grand moment de ma vie.
Oui, je mettrai les images que tu voudras bien nous partager. Je les mettrai sur le blog pour pouvoir donner vraiment du concret par rapport à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait vraiment rêver. Eh bien, un grand merci. Dans ton actualité, tu vas avoir quelque chose qui sort dans le Géo du mois de juin, c'est ça ?
Oui, dans le Géo du mois de juin. J'ai suivi les scientifiques au Cameroun qui surveillent les virus qui peuvent donner les pandémies de demain et qui donc font une surveillance du passage entre la faune sauvage et l'homme qui vit à leur contact, c'est-à-dire soit les pygmées, soit les chasseurs, qui sont les premiers aux avant-postes de cette transmission de nouveaux virus entre la faune sauvage de la forêt équatoriale et l'homme qui, malheureusement, pénètre de plus en plus profond et se met lui-même en danger en allant chercher ces nouveaux virus qui ne demandent qu'à rester dans leur univers.
Mmh. Et alors, il y aura aussi, normalement, un festival nature qui avait été annulé cette année pour cause de pandémie. Tiens, grosse surprise. Donc, le festival d'Albert en 2022, tu t'y retrouveras également.
Oui, le festival d'Albert en 2022, où je dois raconter aussi l'histoire des morses.
Oui.
Et en même temps, présenter une grande exposition photo avec des grands tirages de cette aventures qui seront exposées à Albert sur le parvis du hall des expositions. Et je pense que c'est une exposition qui a déjà un petit peu tourné et qui a été présentée à Montier-en-Der et qui a plu. Et j'espère que les gens pourront en profiter et que je pourrai partager avec eux ce moment-là.
Ah oui, je le souhaite un maximum de monde en tout cas. Un immense merci pour ton temps, pour la passion que tu partages. Et à bientôt de toute façon, parce qu'on va sans doute refaire un épisode pour raconter d'autres aventures, parce qu'il y en a beaucoup.
Eh bien, écoute, si je peux revivre tous ces épisodes en les racontant et en les partageant, ce sera avec plaisir, Anne-B. Je te remercie de me donner la parole. C'est un plaisir pour moi.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Et voilà, c'est fini pour cet épisode en deux parties. On retrouvera Jean-François Lagros d'ici quelques mois pour vous raconter cette fois ses expéditions en famille avec un, puis deux, puis trois enfants. C'est pas rien. Surtout que ces expéditions, vous vous en doutez, ce n'était pas exactement à la Costa del Sol. Alors pour ne pas rater ce rendez-vous et les autres épisodes d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à aller faire un tour sur storylifique.com/podcast sur la page de l'épisode. Les photos que Jean-François a eu la gentillesse de m'envoyer pour vous faire découvrir le pays de Tchouch et les Morses en valent vraiment la peine. Et surtout, un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet, parlez-en autour de vous, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Le projet résonne en vous ? Vous voulez aller plus loin ? Vous trouverez toutes les informations sur storylifique.com/soutien. Vous verrez, il y a plein de manières totalement gratuites de nous aider. À bientôt !